Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bienvenue sur RMC, c'est Apolline Matin, le Apolline Matin du mardi 28 avril. J'espère que vous allez bien. On vous attend au 32-16. Beaucoup de questions. D'abord, est-ce que le travail paye ? Non pour 77% des Français. Ce sera, à n'en point douter, un enjeu de la prochaine présidentielle. Votre pouvoir d'achat fracassé par la guerre en Iran ? Le rapporteur du budget, le député LR Philippe Juvin, est mon invité à 7h40 tout à l'heure. Alors lui, il propose de baisser les cotisations salariales en augmentant la TVA pour, je cite, « rapprocher le brut du net ». Cette expression, vous allez l'entendre beaucoup. Bonne idée, ça vous séduit, le débat au 32-16. C'est finalement le retour de la TVA sociale, cher à Manuel Valls, l'invité du face-à-face de 8h30 à 9h sur RMC et BFM TV. Pouvoir d'achat toujours, celui des agriculteurs, près de la moitié d'entre eux vivent sous le SMIC. Il faut valoriser le métier, nous dira Cécile Duflo, notre voix de gauche. Ça, c'est à 7h50. Et puis, à partir de vendredi, en Charente-Maritime, on en parle depuis tôt ce matin. Téléphoner au volant vous coûtera votre permis, même sans autre infraction. Suspension de permis jusqu'à 6 mois. À 7h10, le préfet de Charente-Maritime, il va nous expliquer pourquoi il a décidé de frapper fort. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous agace? Est-ce qu'il faut en passer par des sanctions lourdes? Faire de même dans tous les départements. D'ailleurs, on vous attend pour le débat ce matin au 32-16. N'hésitez pas à prendre la parole. Dans un instant, le journal de 7h. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC. Vous avez fait le bon choix. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal, c'est avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une phrase à la une ce matin, celle d'Emmanuel Macron qui cible les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau s'est senti visé et répond au chef de l'État. Il voulait viser Donald Trump. Le tireur soupçonné d'avoir ouvert le feu samedi soir en marche d'un gala à Washington a été inculpé pour tentative d'assassinat aux États-Unis. Et l'impatience avant le choc ce soir entre Paris et le Bayern Munich, match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.
L'Algérie, sujet donc de division entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau.
En déplacement dans un hôpital en Ariège hier, le chef de l'État a critiqué la situation des médecins étrangers en France, contribuant notamment à la lutte contre les déserts médicaux, les PADU, majoritairement algériens, à qui on ne facilite pas la vie, déplore le chef de l'État qui, dans la foulée, a ciblé les partisans d'une ligne dure avec l'Algérie, qualifiée, Sonia Gobry, de maboule par le chef de l'État.
Oui, hors caméra, face à des médecins étrangers, Emmanuel Macron déplore le casse-tête administratif pour les titulariser en France alors qu'on manque de praticiens. Un pédiatre algérien le relance et le président tacle donc les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Une attaque à peine voilée contre l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, partisan d'une ligne dure avec Alger. Mais Emmanuel Macron l'assure.
Non, je ne vise personne. Non, non. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Je vise personne.
Sauf que Bruno Retailleau l'a bien pris pour lui. Le président des Républicains réplique. Les médecins étrangers, un faux prétexte pour dissimuler les vrais problèmes. Il cite les OQTF, ceux que la France veut expulser mais que l'Algérie refuse de reprendre, ou l'incarcération du journaliste Christophe Glaise. Des dossiers qu'Emmanuel Macron veut aborder avec une autre méthode.
C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux.
Pour lui, la preuve que sa stratégie fonctionne, c'est la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Vous allez réagir au 32-16 ce matin, tous les maboules qui nous expliquent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. Donc une passe d'armes politique entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, bah vous venez l'arbitrer, c'est déjà un peu de la présidentielle aussi ce débat. Tiens, 32-16 avec vous ce matin en direct.
Emmanuel Macron qui a promis d'échanger avec les autorités iraniennes afin de traiter le problème de la hausse des prix des carburants, appelant à rouvrir, je cite, ce fichu détroit d'Hormuz. Il y en a qui ne nous aident pas, dit le chef de l'État, à l'heure où le cours du pétrole continue de grimper au-delà des 109 $ le baril. Les discussions sur le sujet sont au point mort. Téhéran a pourtant proposé la réouverture du détroit contre le report des négociations sur le nucléaire iranien. Proposition écartée et refusée par Donald Trump.
Le président américain visé par une tentative d'assassinat.
C'est confirmé, Donald Trump était la cible de Cole Allen, ce professeur de 31 ans soupçonné d'avoir ouvert le feu samedi soir dans le hall d'un hôtel en marge d'un gala à Washington. Il a été inculpé hier. Marion Gauthier risque la prison à perpétuité.
Tu ne vous y trompez pas, la procureure de Washington le répète en conférence de presse. Cole Allen visait bien le locataire de la Maison Blanche. Il a réservé sa chambre d'hôtel après que Donald Trump a confirmé sa venue au dîner des correspondants. Il connaissait l'heure d'arrivée du président américain et a fait irruption dans la salle 40 minutes plus tard.
Ces faits montrent clairement les intentions du suspect. Le texte qu'il a laissé pour expliquer son acte également. Il dit « Je vise les représentants de l'administration et je n'hésiterai pas à me battre contre toute personne qui m'empêcherait d'accéder au président. »
Lors de son audience devant le juge fédéral, le suspect est apparu calme en combinaison bleue, rapportent les médias présents. L'enseignant et ingénieur a assuré qu'il répondrait honnêtement aux questions. L'enquête continue et les charges retenues contre lui pourraient encore s'alourdir.
7h04, vous écoutez RMC. Les députés adoptent le rapport sur l'audiovisuel public. Ça s'est joué à deux voix près après 4 heures de débat à huis clos. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a donc validé la publication du rapport écrit par le député Union de droite. Des droites alliés du RN, Charles Aloncle, est largement critiqué par la gauche. À retenir également la fin du mouvement dans les prisons ce mardi après une journée de mobilisation du personnel pénitentiaire visant à dénoncer la surpopulation carcérale. Une réunion à ce propos doit se tenir dans la journée au ministère de la Justice. Et puis au sol, depuis décembre, les avions d'Air Antilles ne redécolleront pas. Sans offre de reprise jugée crédible, la compagnie aérienne a été placée en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité.
Ils travaillent jusqu'à 80 heures par semaine et gagnent moins d'un SMIC par mois.
Les agriculteurs, 43% des exploitants sont dans cette situation. Résultat de la première étude du genre menée par l'Observatoire de la rémunération agricole équitable. Les régions du Sud sont davantage concernées. Le Nord n'est pas épargné. Reportage dans une exploitation bretonne avec notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange.
Guénolé est éleveur laitier. Installé depuis 5 ans, il se verse un salaire mensuel de 1200 euros.
Des périodes comme celle-ci, on peut monter jusqu'à 70-80 heures par semaine. Quand on ramène au nombre d'heures qu'on fait, c'est sûr qu'on est loin du SMIC.
Un petit salaire qui s'explique aussi par les investissements qu'il a dû faire pour financer son installation.
À Saint-Vendégier, on a des super tracteurs, des super outils, mais en même temps, aujourd'hui, je vais passer 10 ou 12 heures assis sur le tracteur. Si j'étais sans cabine, sans clim, en plein soleil, il faut un minimum de conditions de travail, donc on investit d'abord dedans, malheureusement, avant notre salaire.
Car si le revenu des agriculteurs est faible, leur patrimoine est plus important que le reste de la population française, selon le sociologue Gilles Laferté, qui pointe des disparités entre les filières.
C'est un mirage de parler des agriculteurs. Les grosses variables qui expliquent les revenus des agriculteurs, c'est d'abord la filière de production, avec en haut les grandes cultures, la production viticole, et en bas, l'élevage et la production de lait.
Dans ces productions, le seul moyen d'assurer un revenu durable est d'augmenter les prix, estime l'ONG Max Avelar, qui milite pour la mise en place de prix plancher.
Une augmentation généralisée, parfois très élevée, 106 euros de plus par an en moyenne. Les mutuelles ne respectent pas le gel des prix adoptés dans le budget de la Sécu pour 2026. C'est ce que nous dit une étude Que Choisir Ensemble.
Et puis alors rendez-vous au Parc des Princes ce soir pour une affiche de rêve.
PSG, Bayern, Munich, demi-finale aller de Ligue des Champions, duel entre deux favoris de la compétition. C'est probablement ce qui se fait de mieux actuellement en Europe. Autant dire, Valentin Germain, que c'est une sorte de finale avant l'heure qui nous attend ce soir sur RMC.
Oui, le champion d'Allemagne contre le premier de Ligue 1. Deux des trois meilleures attaques européennes face à face. Le ballon d'or Ousmane Dembélé contre le meilleur buteur d'Europe Harry Kane. Cela fait saliver les supporters parisiens.
C'est un peu la finale avant l'heure, oui. On sait qu'il y a des très bons joueurs en face. Ça va être une belle opposition.
C'est la finale qu'on aurait rêvé d'avoir. Il n'y a aucune équipe qui est favorite.
C'est les deux plus grosses équipes en Ligue des Champions qui ont vraiment les joueurs pour la gagner.
Le Bayern reste sur 9 victoires. Le PSG compte 8 succès en 9 rencontres avec deux philosophies similaires. L'entraîneur bavarois Vincent Kompany annonce un gros choc.
Au niveau de l'idée de jeu, on a une confrontation absolument brutale. On a cette même ambition. Il y a une espèce d'orage qui se présente et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller.
En novembre, les Munichois avaient battu le PSG à Paris, mais pour le technicien parisien Luis Enrique, ce match sera indécis.
C'est une demi-finale passionnante. Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. En termes de régularité, Bayern est un petit peu avant de nous, mais c'est qu'au monde, il n'y a aucun équipe meilleure que nous.
Une rencontre au sommet pour laquelle les supporters parisiens annoncent une ambiance brûlante.
Et vous ne manquerez rien de ce PSG Bayern à vivre sur RMC dès 18h ce soir. Rotten sans flamme en direct du Parc des Princes. Le coup d'envoi 21h suivi de l'after foot et de la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Le PSG qui devrait rester au Parc des Princes à 99,9%. C'est Emmanuel Grégoire qui le dit, invité d'RMC hier soir dans Rotten sans flamme. Le maire de Paris évoque la reprise des discussions avec les dirigeants parisiens sur des bases très solide, dit-il.
Voilà une info sur RMC hier, le nouveau maire de Paris. Et puis le match ce soir, PSG, Bayern Munich. Vos pronostics, hein, n'hésitez pas à 32-16, le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. Est-ce que Paris peut le faire dans cette finale avant l'heure, comme le disait Thibaut Texer? On vous attend ce matin en direct avec nous. Il est 7h08. À partir du 1er mai, téléphoner au volant en Charente-Maritime, c'est risquer la suspension immédiate de son permis. Des comportements intolérables qui mettent des vies en danger, dit le préfet de Charente-Maritime, notre invité. Bonjour Brice Blondel.
Bonjour à vous et aux auditeurs.
Il faut suspendre le permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h12, très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Attention, gros changement au volant en Charente-Maritime dès ce vendredi. Bonjour Brice Blondel.
Bonjour.
Vous êtes le préfet du département et vous êtes à l'initiative donc de cette nouvelle disposition, nouvelle sanction. C'est votre parti pris ce matin, il faut suspendre le permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant. Concrètement, qu'est-ce qui change chez vous à partir de vendredi?
À partir de vendredi, tout conducteur qui sera contrôlé avec un téléphone à la main se verra non seulement notifié l'infraction habituelle, hein, c'est-à-dire 3 points et 135 euros, mais encourra également la suspension de son permis pour une durée pouvant aller de 15 jours à 6 mois.
Comment on détermine 15 jours ou 6 mois?
Alors, on lance le dispositif, on va le tester, on va l'ajuster. La gravité de l'infraction, le fait que le téléphone soit associé à d'autres infractions pourrait être un critère pour durcir la durée de rétention du permis en tout état de cause. Tout sera fait pour faire baisser le chiffre fatal des 45 morts par an sur les routes de Charente-Maritime.
Alors on va y venir justement, mais alors Brice Blondel, je pense que vous, cette idée a vocation à se pérenniser, mais pour l'instant c'est expérimental, c'est inscrit dans la durée ou c'est définitif?
L'expérience a été lancée dans un département voisin, celui des Landes.
Bien sûr.
Elle a montré qu'elle fonctionnait. Il est encore un peu tôt pour juger de son efficacité. On commence à noter une baisse des infractions dans ce département. Nous avons bon espoir que cette mesure contribue également à faire diminuer l'accidentologie en Charente-Maritime. À partir du moment où ça marche, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas définitive.
Alors, dans quel cas est-ce que la suspension sera appliquée? Téléphone à l'oreille ou même simple manipulation pour quand on règle le GPS ou qu'on reçoit un message?
Vous savez que lire un message au volant, c'est multiplier par 20 le risque d'accident. Donc, ce qui sera sanctionné, c'est l'infraction. Nos concitoyens savent ce qu'ils ont droit de faire et de pas faire. Ils ont droit de regarder leur GPS sur l'écran de leur véhicule. En revanche, le téléphone en main ou les oreillettes, ce sont des infractions qui seront sanctionnées.
Alors on a un message, mais vous, je vais vous poser la question, comme ça vous nous direz si c'est vrai ou pas. Il y a Ali qui vient de nous écrire sur le WhatsApp RMC, Élise.
Oui, il y a plusieurs manières de sanctionner. Un téléphone à la main, je peux très bien l'avoir sans l'utiliser, et auquel cas ça passe sur une amende de catégorie 2. Est-ce que dans ce cas-là, ce sera sanctionnable d'une suspension de permis?
Ouais, on est quand même les champions de la contestation de la règle. Hein. Donc, les règles sont connues, les deux mains sont sur le volant. Si on a le téléphone dans l'une d'entre elles, et même si on n'est pas en train de téléphoner, c'est une infraction et on encourt cette suspension du permis de conduire. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas d'embêter les gens, l'objectif c'est qu'il y ait moins de morts sur les routes.
Et cet objectif-là, il est salué par Bertrand, je crois qu'on va accueillir en ligne dans un instant. Mais simplement, il y a eu une phase expérimentale chez vous au mois d'avril. Vous avez mis en garde les automobilistes, un mois d'avertissement, de sensibilisation, ouais, sans la sanction, on va dire. Quel est le bilan que vous tirez de cette phase expérimentale?
Avec remise d'un courrier qui explique ce qu'on vient de se dire, le bilan, malheureusement, il est toujours aussi déplorable. Hein. On est à 20 000 contrôles routiers depuis le début de l'année, environ 1 800 infractions et 4 200 contrôles depuis le début du mois d'avril est près de 400 infractions. Ça veut dire que près d'un conducteur sur 10 que l'on croise sur la route utilise son téléphone. Et c'est ça qu'on veut faire changer.
Un conducteur sur 10 que l'on croise sur la route, vous avez bien raison de le dire, que l'on croise, donc il se met lui en danger, il nous met nous en danger aussi, utilise son téléphone. Et vous l'avez évoqué, cette mesure de suspension, elle a été lancée d'abord dans les Landes, mais aussi dans le Lot-et-Garonne, le Pas-de-Calais. Je vais vous demander si vous pensez qu'il faut le généraliser partout en France, mais je vais d'abord poser la question à Bertrand qui est dans le Calvados et qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Impeccable, impeccable, il fait beau.
Bien réveillé, en forme ce matin, tout va bien?
Bien sûr, en forme.
Je vois que vous êtes en reconversion professionnelle, Bertrand. Vous conduisez pas peu, beaucoup. Vous êtes pour, en tout cas, le retrait du permis pour ceux qui ont le téléphone au volant.
Alors, en fin de compte, le téléphone, c'est dramatique. C'est une vraie addiction pour tout le monde. Depuis quelques années, j'ai pris le choix de prendre le vélo. Donc, je roule en vélo tous les jours et je vois beaucoup de gens en voiture qui ont le téléphone entre les jambes ou à l'oreille. Donc moi, je serais pour être très sévère. Donc moi, déjà, je retire ce fameux permis à points qui est bien sûr qui a un gros business pour l'État et je mets des grosses contraventions de 1000 euros. Le gars qui rentre dans une voiture, il téléphone pas. Il est au volant avec, comme dit le monsieur, les deux mains sur le volant. Et automatiquement, si on met des grosses prunes, comme on dit avant, ben les gens, ils vont faire une fois, deux fois, mais ils vont pas payer trois fois les 1000 euros.
Ouais, je sais pas, il y en a qui ont les moyens, Bertrand, vous savez, il y en a qui
payent. Oui, mais non, mais ça,
paye,
c'est faux.
Hein.
Oui, d'accord, mais ceux qui n'ont pas les moyens, on les retire directement sur leur salaire. Même en vélo, moi j'ai un copain qui est en vélo, il s'est fait arrêter par les flics, il a payé 90 euros d'amende.
On sanctionne à vélo, hein. Bien sûr, on sanctionne aussi. Mais alors tiens, Bertrand, vous qui êtes cycliste, vous êtes déjà fait des frayeurs, je veux dire, on le voit bien, hein, de toute façon, la voiture, quand elle dévie d'une certaine manière, la voiture devant nous, hein, quand la personne a les yeux sur un écran.
Bien sûr, moi j'ai eu une grosse frayeur, j'ai failli mourir, sur un rond-point, parce qu'il y a un rond-point qui est un peu fréquenté par ici où je suis, parce que le gars, il était au téléphone. Bon, j'ai failli, sur la peur, sur le moment, j'ai eu très peur. Bon, j'ai failli presque le poursuivre en vélo. Bon, bien sûr, c'était compliqué. Mais je pense que la prochaine frayeur, j'essaierai d'aller voir la personne au volant et lui dire, écoutez, madame ou monsieur, à cause du volant, à cause de votre téléphone, vous avez failli me renverser. Et moi, en vélo, j'ai aucune protection. Donc, en fin de compte, il faut aussi dire notre rôle, c'est aussi de dire aux gens « Ah, monsieur, madame, vous avez fait une erreur à cause de ça. » En fait, c'est une question de civisme.
Vous avez raison, Bertrand, monsieur le préfet, je retiens aussi de ce que dit Bertrand, que c'est pas simplement le conducteur qu'on protège avec cette mesure, c'est aussi tous ceux qui sont autour. Alors, on a évoqué les Landes, 200 permis suspendus entre novembre et janvier. Concrètement, Brice Blondel, est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? Est-ce que c'est le sens de l'histoire? On va suspendre le permis pour usage du téléphone au volant?
Déjà, cette mesure, elle existe dans le code de la route, hein, donc c'est pas une invention locale. Mais oui, il faut la généraliser. Il faut utiliser absolument tous les leviers dont on dispose en répression et en prévention pour que les comportements changent sur la route. Encore une fois, le téléphone au volant sur les routes de Charente-Maritime, c'est 7 morts par an directement liés à l'usage du téléphone sur les 45 que l'on compte malheureusement chaque année. Il faut agir sur tous les leviers et cette mesure me semble y contribuer.
Merci beaucoup, Brice Blondel, préfet de Charente-Maritime. Donc c'est en vigueur à partir de vendredi, hein, chez vous. Je rappelle la suspension de 15 jours à 6 mois du permis de conduire. On n'oublie pas l'infraction de base, hein, qui reste les 3 points de permis et 135 euros d'amende. Merci Brice Blondel et merci à Bertrand qui nous a appelé au 32-16, à Ali qui nous a écrit sur WhatsApp. Vous continuez à réagir, c'est le débat ce matin, 32-16. Et vous serez en direct sur RMC, 7h19. Dans un instant, on va remonter le temps, remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Historien d'Apolline Matin. Arthur, on a appris hier que l'adhésion à la vaccination a beaucoup chuté en France.
Et oui, pourtant la France est une pionnière de la vaccination. Et spoiler alerte, Mathieu, c'est grâce à Napoléon.
7h20 à 8h30, dans le face-à-face, Manuel Valls, ancien Premier ministre. Et attention, dans 5 minutes, Arnaud Demanche vient pirater l'interview. Ne bougez pas, on se retrouve dans 55 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil quand l'histoire éclaire notre actualité. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
La chronique histoire est promis, comme souvent, avec des vrais morceaux de Napoléon dedans.
Voilà.
On est d'accord. Alors, l'adhésion à la vaccination est en baisse en France. Ça, c'est ce que révèle une statistique inquiétante cette semaine. 80% des Françaises se disent favorables à la vaccination de façon générale. Mais la part de ceux qui s'y disent très favorables a baissé, passant de 37 à 24%.
Oui, et ça inquiète les scientifiques. À l'initiative de l'Institut Pasteur, près de 300 personnalités du monde de la science ont publié hier une tribune dans Le Parisien, une tribune où ils dénoncent les idéologies anti-vax venues des États-Unis de Donald Trump. Alors, ils en profitent aussi pour rappeler que la vaccination a permis de sauver au moins 154 millions de vies ces 50 dernières années dans le monde.
Alors, c'est d'autant plus étonnant que la France a été pionnière en la matière.
Absolument. Alors, pour rappel, le procédé médical qui consiste à inoculer un virus pour s'en protéger, ça vient de Chine. Les vaccins en tant que tels, ça arrive en France en gros fin 18e, début 19e. Et Napoléon est un des premiers chefs d'État à s'intéresser à la question. Il va faire beaucoup, notamment en ouvrant des centres de vaccination un peu partout en France. Il va même aller jusqu'à faire vacciner son propre fils pour encourager la pratique. Mais tout ça, c'est rien à côté de sa sœur qui s'appelait Elisa Bonaparte et qui a fait encore mieux puisqu'elle est la toute première chef d'État à avoir imposé une campagne de vaccination.
Attendez, c'était quand exactement?
Alors, c'était en 1806. Voilà, c'est la date. Napoléon avait nommé sa sœur à la tête de deux principautés italiennes, celle de Lucques et de Piombino, c'est à l'ouest de l'Italie. Et Elisa Bonaparte va donc imposer la vaccination contre la variole, qui était une des maladies les plus meurtrières à l'époque. Ça concernait tous les enfants durant les deux mois qui suivaient leur naissance. Cette campagne était donc obligatoire, gratuite, réalisée par des médecins, une première mondiale.
Et pourquoi ça n'est pas devenu immédiatement obligatoire partout en France?
Alors déjà, il faut comprendre le problème que ça posait. L'État a été tout à fait convaincu que la science avait raison, que c'était efficace, mais ça revenait quand même à imposer quelque chose au sein de la famille, de la sphère privée. C'est un peu intrusif, si vous voulez, à une époque où l'autorité des pères de famille était très importante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contourné le problème en imposant d'abord la vaccination dans les écoles, aux élèves, c'était en 1834.
Et alors, est-ce qu'il y avait déjà des anti-vax?
Oui, beaucoup, beaucoup d'anti-vax, et ils étaient très organisés dans une association puissante qui s'appelait la LUGE, la Ligue Universelle des Anti-Vaccinateurs, ça fait très peur. Leur chef, c'était un médecin belge qui s'appelait...
Il y aura un mauvais Marvel.
Absolument, ça vient d'un dessin animé. Leur chef, c'était un médecin belge qui s'appelait Hubert Bunce, et en gros, il était convaincu que les vaccins pouvaient vous rendre malade, hein, bon, comme aujourd'hui. Cette Ligue était aussi un lobby avec beaucoup d'influence, qui agissait auprès de décideurs politique et qui va d'ailleurs empêcher pendant longtemps l'obligation vaccinale à l'échelle du pays. Mais en 1902, ça finit par s'imposer avec une loi qui rend obligatoire en France la vaccination contre la variole au cours de la première année de la vie.
Merci beaucoup Arthur Chevalier et on réécoute toutes vos chroniques, Arthur, sur le podcast, sur l'application RMC. Il est 7h24.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour Mathieu.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre.
Oui, l'ancien Premier ministre français de 2014 à 2016. Un Premier ministre impopulaire à l'époque et pourtant quand il était à Matignon, Mathieu, le diesel coûtait 1,15€ litre. En 2007, il serait élu président avec ça. Au premier tour, Alain Duhamel serait sur BFM en disant « Oh, votez pour lui ! Croyez-moi, c'était un âge d'or !» Vous voulez pas connaître mon programme ? Non, c'est bon, 1,15€ le litre, on vote pour toi. Si on connaît le reste du programme, on risque d'être déçu. Marie Chantrey pourra l'interroger sur la campagne présidentielle qui commence parce que c'est lui le grand spécialiste de la politique française. En 30 ans, il a été de gauche, de droite, du centre. Valls, c'est une boussole qui indique toujours la majorité. Vous savez, si vous êtes perdu dans Paris, ne sortez pas sans votre Manuel Valls. Il pointe toujours vers l'Élysée. C'est un excellent point de repère. Alors, parmi les gros sujets à aborder, l'Iran. Parce que là-bas, c'est la guerre, Mathieu.
Quelle histoire.
60 jours, quelle histoire. C'est aïe, 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 aïe. Ça n'en finit pas. 60 jours. Eh oui. Vous imaginez si ça continuait comme ça jusqu'à juin, faudrait faire des blagues dessus tous les jours. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, Vladimir Poutine propose de stocker l'uranium enrichi de l'Iran chez lui. Quelle bonne idée. Donner de l'uranium enrichi à un psychopathe qui veut faire la Troisième Guerre mondiale. Et pourquoi on n'offrirait pas des couteaux à Guy Georges aussi, hein, et une masseuse à Patrick Bruel? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Manuel Valls fustige la place de la diplomatie française dans le conflit au Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'on est assez discret. Malgré, il faut le dire, le travail de machin, là.
Oh, le chauve. Oh, vous êtes dur.
Vous savez, le gars du Quai d'Orsay, là. Non, pas Stanislas Guérini, l'autre. Jean-Noël Barrault. Voilà. Non mais c'est vrai que la voix de la France à l'international en ce moment on dirait un peu un concert d'Étienne Dao quoi, c'est un peu Manuel Valls a publié une chronique dans l'Express sur le conflit au Moyen-Orient, un truc sérieux, hein. Je vous lis un extrait.
La diplomatie française est restée prisonnière d'un logiciel frappé d'obsolescence, incapable d'appréhender la métamorphose de la conflictualité moderne. Il faut envoyer ce texte à Donald Trump. C'est pas tant que ça va le convaincre, c'est juste que si Trump tente de lire un logiciel diplomatique frappé d'obsolescence des conflits, il n'y aura pas besoin d'un nouvel assaillant avec un fusil. Il va parcourir trois lignes et clac, rupture de tout le du cerveau. Et fin de la guerre. On verra ça avec Manuel Valls à 8h30.
Oui, Arnaud Demange et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20, bien exactement. Sûr, quand on veut en podcast sur l'application RMC. Et juste après le face-à-face avec Manuel Valls, ne manquez pas Nicolas Canteloup, ça c'était 8h50 sur RMC. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et juste après, à 7h40, rapprocher le salaire brut du net. Le RN en a fait son programme. Un député LR travaille sur ce chantier. Forme TVA Sociale. C'est Philippe Juvin, notre invité, juste après le journal. À tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thomas Becker. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. À la une, les Français revoient leur plan pour les vacances d'été. Moins longtemps, moins loin et avec un budget à la baisse. Conséquence de la situation économique et internationale. Le coût des mutuelles en hausse cette année pour plus de 98% des Français. Résultat d'une étude de Que Choisir Ensemble. Des hausses malgré le gel des tarifs inscrits noir sur blanc dans le budget cette année. Le rapport sur l'audiovisuel public sera bel et bien publié. Ça s'est joué à deux voix près à l'Assemblée nationale, le récit d'un vote sous tension dans ce journal.
Les vacances d'été des Français directement impactées par le contexte géopolitique, c'est ce que montre ce matin une étude d'Alliance France Tourisme.
Groupe qui réunit les grandes entreprises du tourisme comme Accor ou Air France, hausse du coût des transports, inflation. On fait le point en direct avec vous, Romain Houck, bonjour.
Bonjour.
En quoi cet été 2026 sera différent des précédents ?
Eh bien d'abord, les Français vont partir moins longtemps. 68% prévoient de partir au moins une semaine cet été. C'est 9 points de moins que l'année dernière. Et seul un peu plus d'un tiers sont sûrs de partir lorsqu'ils étaient 1 sur 2 l'été dernier. Entre la hausse du prix des billets d'avion, les annulations de vol liées à la flambée du kérosène, on en parlait hier, et les péripéties des touristes bloqués dans le Golfe ces derniers mois, les Français semblent un peu refroidis par les conséquences de la guerre. Résultat, ils partent aussi moins loin. 71% resteront en France cet été, plus 3% en un an. La région PACA est la plus plébiscitée, suivie de l'Occitanie et de la Bretagne. Ils ne sont qu'un peu moins d'un sur 10 à choisir une destination lointaine. Enfin, le troisième impact, il est sur le budget vacances, en baisse en moyenne d'environ 150 euros cette année. On rogne sur les petits plaisirs, les dépenses sur place ou les offres d'hébergement. D'ailleurs, ça profite quand même à un secteur, c'est celui du camping, en forte progression cette année.
Vous allez réagir peut-être au 32-16 sur ce sujet, comme sur le suivant. Écoutez bien, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs déjà sur vos factures, le tarif des mutuelles est en augmentation depuis le mois de janvier.
Oui, la loi avait pourtant inscrit le gel des tarifs pour 2026 dans le budget, mais l'association Que Choisir Ensemble a mené son enquête. Résultat, une hausse des tarifs de 4,5% par rapport à l'année dernière, qui concerne la quasi-totalité des Français interrogés, Cassandre Brault.
Oui, avec en moyenne une augmentation de leurs tarifs de plus de 100 euros par an. Des cotisations de mutuelles qui ont même augmenté jusqu'à 2000 euros par an pour les personnes seules. Si vous êtes concerné, Que Choisir rappelle qu'il est toujours possible de contester ces augmentations via un questionnaire disponible en ligne sur leur site. De leur côté, les députés aussi se mobilisent et interpellent le gouvernement. C'est une hausse illégale, dénonce Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne.
Il faut vraiment que ces organismes complémentaires respectent la loi. Ces augmentations, ces dernières années, elles sont plus tenables, elles sont assez injustes en fonction de votre âge, en fonction de savoir si vous êtes retraité ou salarié dans une entreprise. Moi, je souhaite qu'on pose ce sujet sur la table.
La ministre de la Santé a saisi le Conseil d'État pour trancher sur la validité de l'article de loi. La décision est attendue dans les prochaines semaines. Un soulagement pour les mutuelles qui considèrent le gel de leurs tarifs inapplicable et contre la Constitution.
Cassandre Brault pour RMC. À l'Assemblée nationale, les députés ont validé de justesse 12 pour, 10 contre la publication du rapport de Charles Alloncle sur l'audiovisuel public. Épilogue de 6 mois d'audition et de débats mouvementés, Romain Cluzel.
Et c'est un soulagement pour le député RN Laurent Jacobelli.
Les Français vont pouvoir lire dans le détail tout ce que fait le service public de l'audiovisuel français avec son argent. Chacun maintenant se fera son opinion, mais les données seront publiques.
Pendant plusieurs heures, les députés ont négocié à huis clos pour que le rapporteur Charles Alloncle retire certains points de son rapport. Par exemple, des mises en cause personnelles contre des députés et certaines de ses recommandations. Au moment du vote, la députée Renaissance Céline Calvez s'est finalement abstenue.
La publication de ce rapport, c'est le début aussi de sa contestation. Pourquoi ? C'est parce
Est-ce qu'on va pouvoir pointer ce qui relève du mensonge, ce qui relève de l'inexactitude ou de l'impertinence?
Elle estime qu'un vote contre aurait permis à Charles Alloncle de se victimiser, mais ce rapport qui préconise des coupes drastiques dans le budget de France Télévisions et des fusions de chaînes reste inacceptable pour la socialiste Aïda Adizadeh.
Nous, nous avons dit pas en notre nom. Et nous allons de nouveau batailler pour venir rectifier toutes les diffamations, toutes les insinuations et tous les mensonges qui émaillent ce rapport. Toutes les pages, à toutes les lignes, à tous les paragraphes, il y a une horreur.
Le rapport sera officiellement rendu public la semaine prochaine.
Romain Cluzel, service politique d'RMC.
Après 60 jours de guerre, les négociations entre les États-Unis et l'Iran toujours au point mort.
Oui, l'Iran impute cette nuit aux Américains l'échec des pourparlers en raison de leurs exigences excessives. Donald Trump, lui, s'est dit mécontent de la position iranienne qui refuse d'aborder la question de son programme nucléaire. Déjà l'heure de la justice pour celui qui voulait s'en prendre à Donald Trump. Le suspect qui a tiré lors d'un gala à quelques mètres du président américain samedi soir a été inculpé hier pour tentative d'assassinat contre le président des États-Unis. Il risque la prison à perpétuité. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu la visite d'État de Charles III aux États-Unis. Le roi prononcera aujourd'hui un discours devant le Congrès américain. Visite d'État marquée par l'anniversaire des 250 ans de l'indépendance américaine vis-à-vis de la couronne britannique.
Il est 7h35 sur RMC et c'était déjà un compte à rebours hein, ce mardi. La soirée spéciale dès 18h pour la demi-finale de Ligue des Champions. Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.
Oui, avec déjà une bonne nouvelle côté PSG. Aucun blessé à déplorer. Luis Enrique dispose de tous ses atouts offensifs. Et c'est important parce que tout le monde n'a pas cette chance, notamment au Real Madrid et peut-être l'équipe de France à moins de 50 jours de la Coupe du Monde. Edgar Golo, notre correspondant à Madrid, après le genou au mois de décembre, Kylian Mbappé, cette fois blessé à la cuisse.
Oui, Kylian Mbappé est blessé au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. C'est un muscle qui fait partie des ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Les médecins du Real Madrid ont effectué des tests sur le français hier au centre d'entraînement. Kylian Mbappé est aujourd'hui écarté des terrains. Aucune durée d'indisponibilité n'a été communiquée par le club. Mais il n'y a pas d'alarmisme à Madrid. L'objectif pour Kylian Mbappé devrait être de revenir à temps pour disputer le Classico contre le FC Barcelone dans moins de 2 semaines. D'ici là, il ratera un match de championnat contre l'Espagnol de Barcelone. Cette blessure ne suscite pas d'inquiétude particulière chez les Bleus. Le staff est en contact permanent avec le joueur et l'équipe médicale madrilène. Pour l'heure, à 6 semaines de la Coupe du Monde, la présence de Kylian Mbappé avec l'équipe de France n'est pas remise en question.
Et puis les courses, c'est à Chantilly.
Oui, départ à 13h55 et le favori de la Dream Team RMC, c'est les 2 Quiet King. L'outsider, c'est le 14 Tiger Rock.
Merci beaucoup Thomas Becker, c'était le journal. Et à 7h37, on va accueillir Fanny qui nous appelle du Nord ce matin. Bonjour Fanny.
Bonjour.
En direct au 32-16 ce matin, c'est cette idée du préfet de Charente-Maritime qui vous a interpellé. À compter de vendredi, les usagers, ceux qui sont au téléphone au volant, pour le dire simplement, auront l'amende habituelle, le retrait de points habituel, mais une suspension de permis aussi de 15 jours à 6 mois. Est-ce que vous soutenez cette idée, Fanny? Est-ce qu'il faut le jouer partout? Je sais que c'est le cas dans le Pas-de-Calais, pas loin de chez vous aussi.
Oui, je trouve que c'est une bonne chose, puisque c'est vrai que le téléphone au volant, c'est très dangereux, et certains contournent, en fait. Beaucoup utilisent le Bluetooth, donc ils n'ont pas le téléphone au volant, mais ils l'utilisent, et c'est vrai que c'est dangereux. Et souvent aussi, on voit les supports de téléphone, et beaucoup tapotent le téléphone qui est sur le support, mais qui n'ont pas le téléphone.
Bien sûr, le support, il est censé servir de GPS, hein, pas servir pour tapoter des messages. Après, sur le Bluetooth, pour tout vous dire, c'est autorisé quand c'est dans l'habitacle, quand c'est inclus dans l'habitacle du véhicule. C'est interdit quand c'est avec une oreillette à part. Il faudra voir comment les forces de l'ordre pourront discerner tout cela, mais ça reste le même problème que sur le téléphone au volant avec la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Mais merci Fanny de votre appel, plutôt favorable à cette idée. Est-ce qu'il va falloir étendre cette idée 4 départements désormais? Est-ce qu'il faut que partout en France on suspende le permis de ceux qui utilisent le téléphone au volant? Vous nous le dites au 32-16 ce matin et on vous accueillera en direct. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Rapprocher le salaire brut du net. Croyez-moi, vous allez l'entendre, cette expression, dans les mois qui viennent. Un député LR travaille sur ce chantier. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Rapporteur général du budget. Ça passe par une baisse très nette des cotisations. Mais alors, comment est-ce que vous allez financer ça? Vous nous répondez dans une minute sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h42 sur RMC. Bon réveil. Rapprocher le salaire brut du net. Comment et à quel prix? C'est concret. Chacun peut regarder ce matin sa fiche de paye et mesurer l'écart entre le salaire et ce que l'on reçoit à la banque. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Vous êtes député des Républicains, rapporteur général du budget. Rapprocher le brut du net. Je reprends l'expression. On la retrouve chez Jordan Bardella dimanche, chez Gabriel Attal avant lui, chez Bruno Retailleau aussi. Le constat, quel est-il, Philippe Juvin? Le travail ne paye plus.
Le constat, c'est ça, c'est que ça vaut pas le coup dans un certain nombre de fois de travailler, parce que entre ce que vous verse, ce que paye l'employeur et ce que vous recevez, il y a une grande différence. Donc moi, ma proposition est très simple. Je veux que le brut, qui est sur votre fiche de paye, le brut, eh bien, en fait, il aille dans votre poche, à part la CSG et le CRDS.
Alors, vous allez baisser les cotisations salariales, mais en fait, les supprimer, si vous dites.
Je supprime.
Supprimer.
Je supprime toutes les cotisations
santé,
salariales.
Retraite, chômage.
Sauf CSG, CRDS. On touche pas aux cotisations patronales. Ce qui permettra d'augmenter significativement la fiche de paye. Il y a une deuxième raison.
Vous dites que ça va rendre 106 milliards d'euros aux Français.
Oui,
bah combien c'est sur ma fiche de paye en pourcentage?
Oh, bah, probablement une bonne dizaine de pourcents, ça dépend de votre fiche de paye.
D'accord.
Alors beaucoup de gens disent oui, il faut le faire, mais souvent les gens ne disent pas comment il faut. Donc moi j'ai calculé les choses, j'ai modélisé le système en tant que rapporteur général du budget, et ma proposition est la suivante, c'est-à-dire que vous touchez dans votre poche tous les mois votre brut, vous en faites ce que vous voulez, il est à vous. Et ça va créer de l'activité économique, ça va créer de la TVA, ça va créer de l'impôt sur le revenu, etc. Tout ça, c'est calculé. Je vous passe les détails, pour savoir combien on arrive. Ça crée des emplois. Il y a des modèles économiques, en particulier développés par le Trésor, qui montrent qu'on va probablement arriver en 5 ans à 450 000 emplois, ce qui est considérable. Et derrière, il y a un solde qu'il faut compenser par une augmentation de la TVA.
Vous dites même que 450 000 emplois, c'est la fourchette basse. J'ai lu les détails. Seulement, les Français, ils sont un peu têtus parfois. Et quand on leur donne de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, ils épargnent 6 600 milliards d'euros d'épargne. En ce moment, en particulier, quand ce n'est pas cramé par le gazole, c'est mis de côté.
Alors, c'est vrai. Le modèle que j'ai mis en place imagine qu'il y a une part de thésaurisation, c'est-à-dire de mise sur le côté. Ce qui, en soi, n'est pas un vrai problème parce que, vous savez, l'argent, à moins de le mettre sous votre sommier et de le planquer sous votre sommier, l'argent, en réalité, il est toujours productif. Il n'y a pas de thésaurisation non productive. Mmh. Le système est ouvert. Ce qui est très important, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français à travers ces brut égal net. Et puis, il y a une deuxième point qu'on n'évoque jamais, c'est lisez votre fiche de paye. Enfin, c'est incompréhensible, une fiche de paye. Il y a des lignes partout, on n'y comprend rien.
Oui, sauf que, alors, on n'y comprend rien, mais oui. Ce qu'on peut comprendre, en revanche, c'est que le salaire brut, c'est du salaire différé, dit la CGT, par exemple. C'est du salaire qu'on va toucher derrière, parce que là, vous êtes aussi en train d'affaiblir la caisse d'assurance chômage, non?
Non, justement. Le calcul que j'ai fait et les mesures que je mets en œuvre compensent ces 106 milliards. Parce que vous avez raison, il faut bien que les gens comprennent. Les 106 milliards que je redonne dans la poche des gens, en fait, aujourd'hui, où vont-ils? Ils se perdent pas, ils vont à la sécurité sociale. Et donc, tout le sujet, c'est comment on fait pour redonner à la sécurité sociale ces 106 milliards. Et le calcul que je fais, c'est encore une fois un peu compliqué, permet de redonner ces 106 milliards par l'activité économique que ça crée. Ça crée de l'activité économique. Avec ce d'argent, vous allez payer des choses, vous allez payer de la TVA, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Et j'ajoute 3 points de TVA supplémentaires, voilà. Mais qui ont pour effet de couvrir tout le monde, pas simplement les gens qui travaillent.
C'est le principe de la TVA, ça concerne tout le monde, pas uniquement ceux qui travaillent,
oui.
Sauf que ça concerne tout le monde de la même manière.
Vous savez,
ce qu'on dit de la TVA,
en fait.
C'est l'impôt pas le plus égalitaire. En fait, on va faire payer plus les plus pauvres.
Non, enfin, c'est, la TVA elle a l'avantage de mutualiser cette disposition. Moi, je redonne de l'argent à ceux qui travaillent. Je veux que le travail paye. Je veux que il y ait plus d'intérêt à se lever le matin pour aller travailler que d'attendre éventuellement que le temps passe.
Mais 3 points de TVA pour 24 ouais. milliards d'euros, hausse d'un point de CSG pour 16 milliards, c'est aussi dans vos calculs. Vous allez être la droite qui augmente les impôts?
Non, justement, je redonne de l'argent aux gens. En fait, ce que je veux, moi, c'est que les gens puissent disposer librement de l'argent qu'ils gagnent. Aujourd'hui, quand votre employeur vous verse 100 euros, il y en a guère qu'un peu plus de 50 qui arrivent vraiment dans votre poche. Et c'est pour ça que les gens veulent pas travailler. C'est pour ça qu'en France, on ne travaille pas. Vous savez, on dit souvent, les Français travaillent moins qu'ailleurs. C'est vrai, on travaille moins qu'ailleurs et ils sont paresseux, mais pas du tout. Ils ne travaillent pas parce qu'ils sont paresseux. Ils ne travaillent pas, les Français, parce qu'ils sont intelligents. Ils ont compris que ça valait pas le coup de travailler. Et donc, ce que je propose, moi, c'est que je leur donne.
Ça vaut pas le coup de travailler, Philippe Juvin?
En France aujourd'hui, objectivement, dans un certain nombre de.
On vit mieux sans travail qu'avec un travail aujourd'hui.
Non, mais le delta entre travailler et ne pas travailler dans un certain nombre de cas du fait de, des coûts de transport, des, faits, des effets sur votre vie personnelle, des faits que vous, vous perdez un certain nombre d'avantages quand vous vous remettez au travail. Parfois, le travail ne paye pas, c'est bien le sujet. Ouais.
Alors vous dites qu'il faudra faire du budget 2027 une heure de vérité. Je rappelle que vous êtes rapporteur du budget. Mais quelle vérité? A priori, à droite, rapprocher le brut du net, je le disais, on l'entend chez Bardella, chez Attal, chez Bruno Retailleau. Vous avez tous le même programme en fait.
Oui, sauf que encore une fois, Madame Thatcher disait ne me dites pas ce qu'il faut faire, dites-moi comment le faire. Et moi, je dis comment le faire. Et toutes les gens tout à fait estimables qui en ont parlé, je leur propose moi une méthode. Et je leur dis oui, c'est possible, mais il faut avoir le courage de, par exemple, augmenter la TVA de 3%. Moi, je l'assume, si vous voulez.
Vous assumez augmenter la TVA de 3%, c'est comme
parce
ça
que je renonce cette 106 idée de 106 milliards au pouvoir d'achat aux Français.
Alors, j'ai parlé du budget 2027, mais le budget 2026, là, il n'est pas déjà périmé avec la guerre en Iran, les perspectives assombries, l'objectif de croissance et de tenue des déficits presque oubliés. Il va falloir faire 6 milliards d'économies. En fait, j'aurais pas dû parler du budget 2027. On va déjà revoter, là. On va déjà retravailler, 26.
Alors, on va pas revoter, j'espère pas. On va pas se remettre un débat budgétaire qui n'a pas de majorité. Mais il est clair que le budget 2026, actuellement, ne sera bouclable que si on prend des mesures de correction, et particulièrement sur les mesures de correction, des mesures d'annulation de crédit, c'est-à-dire des dépenses qu'on avait décidées, qu'il va falloir annuler. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que l'augmentation des taux d'intérêt fait que la France va payer 4 milliards de plus d'intérêt de la dette. Donc ce sont des dépenses qui n'étaient pas prévues.
Philippe Juvin, député LR, rapporteur du budget, mais aussi médecin. Hier, Emmanuel Macron déplorait le casse-tête administratif pour titulariser des médecins étrangers, ce qu'on appelle les PADU, alors qu'on manque de médecins. Et le président de tacler les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau l'a pris pour lui, sans doute à juste titre. À droite, Philippe Juvin, vous êtes des maboules. Votre parti est dirigé par un maboule.
Alors d'abord, moi, je suis médecin hospitalier, vous l'avez dit. Je ne connais pas un seul hôpital en France qui puisse fonctionner sans les médecins étrangers. Donc on a évidemment besoin des médecins étrangers. Et il y a des médecins étrangers de grande qualité. Je pense en particulier aux médecins qui sont formés en Tunisie ou au Liban, qui sont très, très bons médecins. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est très compliqué effectivement de venir les faire travailler. Il y a des procédures qui sont difficiles, mais ces procédures, elles sont créées par la France. C'est la France elle-même qui crée les procédures qui rendent les choses difficiles. Quant à l'Algérie, c'est un grand pays, on a une grande histoire commune avec un grand peuple, et il y a aucune raison qu'on se fâche avec l'Algérie. On a le droit de se fâcher avec ses dirigeants et n'être pas d'accord sur la politique qu'ils mènent, mais pas avec l'Algérie, bien entendu.
Il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie, pas avec les Algériens.
Mais non, mais.
Pas la méthode Retailleau, si je vous suis bien.
Non, non, pas du tout. Retailleau a dit les choses tout à fait différemment et clairement. Il a dit ceux qui sont en Algérie à la tête du pays ont des attitudes qui sont très hostiles à la France. Et il est normal que nous, les Français, nous défendions nos intérêts.
Merci Philippe Juvin, député Les Républicains, rapporteur général du budget. On aura l'occasion de se reparler. Il va falloir trouver 6 milliards pour boucler 2026. Vous allez avoir du boulot. Merci beaucoup.
Merci.
Il est 7h50 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la voix de gauche d'RMC, c'est avec vous, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Près de la moitié des agriculteurs touchent moins que le SMIC.
Et c'est un scandale, et c'est anormal, et il faut absolument revaloriser le métier des petits agriculteurs.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
7h51 sur RMC et RMC Story. Taylor Swift se bat à sa manière. Élise, c'est le bonus contre les dérives de l'intelligence artificielle.
Et pour ça, elle veut faire de sa voix une marque déposée. Comme l'acteur Matthew McConaughey en janvier, l'Américaine a fourni à l'Institut américain de la propriété intellectuelle deux empreintes sonores. Chacune commence par « Hey, it's Taylor ». Bonjour, c'est Taylor en français. Voilà, et c'est la bilingue. Première chanteuse à le faire. Bien sûr que je suis bilingue. Alors, elle a aussi fourni une photo d'elle, ce qui n'est pas sans nous rappeler sa colère en septembre 2024 lors de la mise en ligne sur le site officiel de campagne de Donald Trump d'une fausse image d'elle, appelant à soutenir le républicain. Reste à savoir les effets que ce dépôt aura, faciliter les procédures judiciaires très certainement. Alors, dans le doute, je vais signer cette chronique. C'était Élise Dangean. It's Élise. Hey, pour le bonus RMC.
Certifié original et garanti.
Ah oui, sans intelligence artificielle.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Voix de droite, voix de gauche, tous les jours une voix différente. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Mathieu.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là? 43% des agriculteurs, Cécile, qui vivent sous le SMIC. Dans un pays qui a divisé par 4 le nombre d'exploitations depuis les années 70, comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Il faut d'abord dire que c'est pas acceptable, que ceux qui nous nourrissent doivent pouvoir vivre dignement leur travail, c'est quand même la base. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a modernisé, on a agrandi, on a concentré, mais on n'a pas sécurisé les revenus. On a misé beaucoup sur la productivité avec une fausse promesse. On a dit, si on augmente la production, on va augmenter les revenus. Et c'est pas ce qui s'est passé. On a moins d'agriculteurs, beaucoup moins, mais on a beaucoup plus d'inégalités entre les agriculteurs.
Mais alors, ces inégalités, elles viennent d'où, Cécile? Elles ne sont pas corrigées par les aides publiques?
Eh bien non, Mathieu, et c'est même le contraire, et c'est ça le problème. Le système est construit comme ça, on paie en fonction de la taille de l'exploitation, à l'hectare. Et on a abouti à une situation où 80% des aides publiques vont aux exploitations les plus grandes. Donc, plus on a de terre, plus on touche, indépendamment du revenu réel d'ailleurs. Et il y a même un chiffre pire sur les aides environnementales. En Europe, on pourrait dire que les petites exploitations devraient davantage en bénéficier parce qu'elles favorisent le maintien de l'environnement. Mais en fait, c'est même pas le cas. 70% des aides vont aux grandes exploitations et c'est seulement 5% qui vont aux petites. Donc on voit bien que ça reproduit ces inégalités. D'ailleurs, la Cour des comptes elle-même est très explicite. Elle dit que les aides de la politique agricole commune sont un facteur de forte inégalité et avantage les grandes exploitations.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien d'abord on fait la bonne analyse de ce qui s'est passé, parce que cette logique grande exploitation, plus d'hectares, donc plus d'aides, donc plus d'investissements, donc plus de croissance, donc plus d'argent, ça marche pas, parce qu'on a divisé par 4 le nombre d'agriculteurs en 50 ans, mais on a mal, voire très très mal partagé les richesses.
Alors il y a l'ONG Max Havelaar qui milite pour des prix planchers garantis aux producteurs. C'est le genre de bonne solution selon vous, ou est-ce qu'on en demande trop aux consommateurs aussi, Cécile?
Alors d'abord, la question c'est de savoir à qui on le demande. En tout cas, le prix plancher, c'est sûr que c'est normal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vivre de son travail. Et c'est ce que disait la loi Egalim, et qui n'a pas été appliquée, qui est surtout pas contrôlée. Parce que le problème, Mathieu, c'est pas le consommateur, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'endroit où certains gagnent de l'argent. Et ce sont les marges de la grande distribution et des industriels qu'il faut aller chercher. Parce que c'est là, en fait, le trou noir entre ce que reçoivent les agriculteurs et ce que payent les consommateurs. Quand un éleveur touche 1 200 € par mois et qu'un grand distributeur, lui, affiche des bénéfices records, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est ça qu'il faut changer.
Merci beaucoup Cécile Duflot, notre voix de gauche. Demain, la voix de droite, de mémoire, je crois que ce sera Charles Consigny avec nous demain matin. Merci beaucoup Cécile, et encore une fois, vous êtes agriculteur, appelez-nous. La moitié des agriculteurs qui vit sous le SMIC, c'est parfaitement intolérable, incompréhensible. Il faut nous correctement payer ceux qui nous nourrissent. On en parle avec vous si vous le souhaitez au 32-16, bien sûr, n'hésitez surtout pas à suivre la météo, le journal de 8h, et puis l'économie avec Pierre Rondeau. Pierre, on va acheter des armes aujourd'hui.
Oui, des armes et encore toujours plus d'armes, des milliards de dollars dépensés à travers le monde.
Vous restez bien sur RMC, et l'invité du face-à-face à 8h30, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.